pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Féminin, masculin ou X sur son permis de conduire? Un texte de Lisiane Alexandre, paru le 11 mars 2024 sur le site Les As de l'info. Une lettre de l'alphabet a fait beaucoup parler d'elle cette semaine, le X. Mais qu'est-ce que ça signifie? On t'explique. Jusqu'à maintenant, au Québec, lorsqu'une personne obtenait son permis de conduire ou renouvelait sa carte d'assurance maladie, elle devait indiquer si elle était de genre masculin, M, ou féminin, F. Une nouvelle option est maintenant disponible, le X. Ni M, ni F. Certaines personnes ne s'identifient ni comme homme, ni comme femme. On les qualifie de personnes non-binaires. Sur une carte d'identité, ni le M ni le F ne leur convient. Beaucoup d'entre elles ressentent d'ailleurs un malaise à devoir choisir l'une de ces lettres. C'est à elles que s'adresse l'option X. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marqueur X n'est pas nouveau. En fait, depuis 2022, plus de 500 Québécois ont fait changer le marqueur M ou F pour un X sur leur certificat de naissance. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles peuvent maintenant le faire sur leur permis de conduire et sur leur carte d'assurance maladie. Cette décision prise par le gouvernement du Québec cette semaine a causé la surprise. C'est une annonce qui est attendue depuis longtemps. D'ailleurs, l'automne dernier, une personne non-binaire nommée Alex-Frédéric Mignot avait fait la grève de la faim devant les bureaux de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est l'organisation qui distribue les cartes d'assurance maladie. Son but? Mettre de la pression pour que les personnes non-binaires puissent utiliser l'option X sur leur carte. Selon Alex-Frédéric, il s'agissait d'une urgence. Une question de droit. Cette décision a été plutôt bien reçue, même si plusieurs considèrent qu'elle aurait dû être prise beaucoup plus tôt. Manon Massé, porte-parole du Parti Québec solidaire pour les communautés LGBTQ+, a expliqué pourquoi c'est une nouvelle importante. Ça peut paraître banal pour vous, mais pour ces personnes, avoir une mention X au lieu de F ou du M sur ces pièces d'identité, c'est enfin pouvoir être reconnu, respecté et validé. Et toi, quelle information aimerais-tu ajouter à ta carte d'identité?
Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau?
Nous cherchons le guichet 1.
Consultez le plan au 6e étage et refermez la porte. Quelle insolence! Continuons, mademoiselle.
Pour ou contre les devoirs? Un texte de Caroline Bouffard, publié le 11 mars 2024 sur le site Les As de l'info. On a appris dernièrement que les élèves en Pologne, un pays d'Europe, n'allaient plus avoir de devoirs. Ici, c'est un sujet de débat, soyons honnêtes. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui aiment les devoirs. Plusieurs parents non plus ne semblent pas en raffoler. Il y a des profs qui n'en donnent pas, d'autres qui en donnent seulement parce que les parents insistent vraiment pour en avoir. Certains experts disent que les devoirs sont importants. D'autres, non. C'est un sujet parfait pour un pour ou contre, non? Les arguments pour. Les devoirs permettent de réviser. En mettant en pratique ce qu'on a appris dans la journée, on peut mieux voir si on a tout bien compris. Si on a une difficulté, on pourra en parler au prof le lendemain. Ils font un lien entre les parents et l'école. Les devoirs permettent aux parents de voir ce qui est appris en classe. C'est un moyen pour eux de participer à l'apprentissage des enfants, de les aider et de s'intéresser à leurs études. Ils développent l'autonomie. bien noter les devoirs à faire, apporter le bon matériel à la maison, organiser son temps. Les devoirs apprennent aux élèves à s'organiser et à être autonomes. Les arguments contre. Ça nuit à la qualité de vie des familles. Vite, enfile tes bottes et ton habit de neige. Vite, on soupe. Vite, les devoirs. Ouf! Ce n'est pas évident de trouver l'énergie et le temps en fin de journée pour s'installer et faire ses devoirs dans le calme. Les élèves et les parents sont fatigués. Dans beaucoup de familles, la période de devoirs devient une source de stress et de chicanes. Moins de temps libre. Lire, jouer dehors, se changer les idées, la fin de journée et la soirée devraient servir à décrocher et à relaxer. Quand on prend le temps de se reposer, on est ensuite plus disponible à apprendre de nouveau. C'est injuste pour certains enfants. On a parfois besoin d'explications des parents pendant les devoirs. Mais, pour plein de raisons, certains enfants ne peuvent pas compter sur leurs parents pour les aider. Certains élèves sont donc désavantagés par rapport à ceux qui ont de l'aide à la maison. C'est souvent pour cette raison que des spécialistes disent que les devoirs devraient se faire à l'école. Et toi? Es-tu pour ou contre les devoirs?
Moi, je n'aime pas les devoirs, je les fais tous les soirs, sous l'œil de mes parents qui me surveillent tout le temps. Moi, je n'aime pas les devoirs, je les fais tous les
soirs. Le retour de la rougeole en 5 questions. Un texte de Caroline Bouffard, publié le 4 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. Ces jours-ci, on parle beaucoup d'une maladie qu'on croyait presque disparue, la rougeole. On t'explique pourquoi ça fait les nouvelles et ce que tu dois savoir. Il y a actuellement 10 cas de rougeole au Québec, tous dans la région de Montréal. Le gouvernement s'active pour limiter la propagation de la maladie. Quoi? On se mobilise pour 10 personnes? Oui, car la rougeole est une maladie très contagieuse et peut parfois être grave. Rassure-toi. Il existe un vaccin très efficace qui agit rapidement. Tu es probablement déjà vacciné depuis longtemps. C'est quoi la rougeole? Le virus de la rougeole voyage dans l'air. Parler, tousser, respirer, tout ça fait circuler le virus. Son nom vient du fait qu'on développe des rougeurs sur le visage et le corps quand on est infecté. Les personnes qui risquent d'avoir des complications sont les bébés et les femmes enceintes. La rougeole avait été presque complètement éliminée au Québec grâce à la vaccination des bébés depuis les années 1970. Pourquoi ça revient? Le nombre de cas de rougeole augmente partout dans le monde ces dernières années. Depuis la pandémie de COVID-19, les experts en santé publique remarquent une baisse de la vaccination dans la population. Les experts appellent cela la fatigue vaccinale. Les gens sont tannés qu'on leur parle de prévention et de vaccins. Il y a eu aussi beaucoup de désinformation sur les vaccins pendant la pandémie. La rougeole est très, très contagieuse. Les personnes non vaccinées qui sont en contact avec le virus développent habituellement la maladie. Elle peut donc se répandre très rapidement dans les milieux où le taux de vaccination est bas. Comment savoir si je suis vacciné? Au Québec en général, les bébés sont vaccinés contre la rougeole à 12 mois et à 18 mois selon les recommandations du ministère de la Santé. Tu peux poser la question à tes parents pour savoir si c'était bien ton cas. Si tu as reçu le vaccin quand tu étais bébé, bonne nouvelle, tu es protégé. Si tes parents ne sont pas certains, vous pouvez consulter ton carnet de vaccination. C'est un petit cahier remis au Québec à la naissance ou lors du premier rendez-vous de vaccination. Le personnel médical y a inscrit tous les vaccins que tu as reçus. Si vous ne le trouvez plus, vous pouvez aller sur Internet et consulter le registre de vaccination du Québec. Où se faire vacciner? Toi et tes parents pouvez prendre rendez-vous sur le site Clic Santé. Le vaccin est disponible partout dans la province. C'est gratuit. Une fois vacciné, on est protégé à 95% pour toute la vie. Au retour de la relâche, il y aura aussi des campagnes de vaccination dans les écoles où le taux de vaccination est bas. Est-ce que je dois m'inquiéter? Je te rassure, les experts en santé publique prennent les grands moyens pour limiter la propagation du virus. Ils invitent toute la population à aller se faire vacciner. C'est la meilleure arme contre cette maladie. Toi, contre quoi aimerais-tu qu'un vaccin soit développé? Hockey Junior, de l'argent pour blesser des joueurs. Un texte de Émeric Epo, publié le 5 mars 2024 sur le site Les As de l'Info. La Ligue de hockey junior de l'Ontario mène une enquête sur une de ses équipes, les Wolves de Sudbury. Pourquoi? L'équipe aurait offert de l'argent à ses joueurs pour qu'ils blessent leurs adversaires. On te parle de cette histoire assez choquante. Que s'est-il passé? Tout a commencé lors d'un match entre les Wolves de Sudbury et les Colts de Barry. Durant la partie, un des joueurs des Colts, Kashan Hutchison, a violemment percuté l'attaquant adverse, Nathan Villeneuve. Blessé, Nathan a dû quitter la patinoire. Hutchison se serait aussi battu avec un autre joueur de l'équipe des Wolves. Quelques jours plus tard, les deux équipes se rencontraient sur la glace pour un autre match. Cette fois, l'équipe des Colts a décidé de ne pas faire jouer Kashan Hutchison. Pourquoi? Selon plusieurs sources du média Sportsnet, qui a enquêté, la tête du jeune défenseur aurait été mise à prix par les Wolves. En d'autres mots, une somme d'argent aurait été promise aux joueurs des Wolves qui réussiraient à blesser Hutchison. D'autres scandales du genre. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de sommes d'argent promises pour blesser des joueurs. En 2012, un scandale a éclaté dans la NFL, Ligue américaine de football. L'équipe des Saints de la Nouvelle-Orléans offrait des sommes d'argent à ses joueurs qui blessaient certains adversaires. À l'époque, le coach des Saints et quatre de ses joueurs ont été suspendus. D'autres exemples existent aussi dans d'autres sports. Une affaire à suivre. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'elle concerne une ligue junior, donc des joueurs entre 16 et 20 ans. Comme une enquête est en cours, la Ligue de hockey junior de l'Ontario préfère ne pas donner plus de détails pour le moment. On va bien évidemment suivre ce dossier pour toi. Et toi, as-tu déjà subi une blessure en faisant du sport?
Pénalité de 2 minutes au numéro 32 des blaireaux de Sainte-Thérèse pour rudesse.
Rudesse, rudesse.
Le fantôme toxique qui hante les Madelineaux. Un texte de Lisiane Alexandre paru le 2 février 2024 sur le site Les As de l'Info. Il y a plus de 50 ans, un grand navire, nommé le Irving Whale, s'est échoué dans le golfe du Saint-Laurent, près des îles de la Madeleine. Ça a causé une énorme fuite de produits toxiques. Encore aujourd'hui, on retrouve des matières dangereuses sur les plages de l'archipel, un peu comme si elles hantaient les Madelineaux. On t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1970, un bateau de la compagnie Irving, une entreprise qui distribue du pétrole, coule à une centaine de kilomètres des îles de la Madeleine. Ce navire transporte du mazout, un produit qui peut servir au chauffage. C'est un liquide épais et visqueux. En 1995, soit 25 ans plus tard, on apprend que ce mazout était contaminé au BPC, un produit très toxique. Son utilisation est aujourd'hui interdite au Canada puisqu'il est dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Un naufrage très nocif pour l'environnement. En s'échouant, le navire a contaminé 35 kilomètres de plage aux îles de Madeleine. On estime que pendant 25 ans, à chaque année, 29 000 litres de mazout s'écoulaient dans l'eau. À l'époque, on ne savait pas trop comment se débarrasser du mazout collé au sable. La garde côtière canadienne a donc décidé de le pelleter dans des sacs de plastique qui ont ensuite été enfouis dans des dunes de sable qui font la renommée des îles de la Madeleine. Oui, tu as bien lu. Ils ont enterré le problème. Et les fantômes dans tout ça. Tu le sais peut-être déjà, les changements climatiques entraînent l'érosion de ces dunes de sable. Ça veut dire qu'elles rapetissent petit à petit. Alors, de temps à autre, les sacs remplis de mazout contaminés refont surface. Ce sont eux, les fantômes des îles. L'idéal serait d'enlever tous les sacs pour se débarrasser correctement de ces substances indésirables. Mais le maire des îles de la Madeleine, Antonin Valiquette, a décrit au Devoir les obstacles. Même si on voulait enlever tous les sacs, ce ne serait pas possible. On ne sait pas où ils sont, combien il y en a et quels seraient les impacts pour les dunes. Jusqu'à maintenant, on a récupéré plus de 9000 sacs. Mais ça ne représente qu'environ 5% du nombre total, environ 200 000. Petite consolation. Heureusement, le navire a été sorti de l'eau en 1996. Il ne déverse donc plus de mazout. Il a même été remis à neuf en 2001. Depuis ce temps, il transporte des matières sèches, comme des copeaux de bois et des tubes d'acier. Et toi, as-tu des idées de solutions pour ce problème? Suivez le guide. Un texte paru dans le magazine Corium en mars 2024. Et si on trompait le guide alimentaire canadien pour aller voir ce qui se fait ailleurs? Une centaine de pays possèdent leur guide alimentaire. Tous encouragent la consommation d'une grande variété d'aliments, surtout des fruits et des légumes. Les messages clés varient ensuite selon les nations. Par exemple, aux États-Unis, l'approche est centrée sur l'apport énergétique des aliments. Au Brésil, on invite plutôt les familles à favoriser les aliments non transformés et les mets cuisinés à la maison. Le guide insiste également sur la nécessité de prendre le temps de manger, idéalement en bonne compagnie. En bonne compagnie. Un repas partagé avec des proches sera plus savoureux et mémorable que s'il est consommé en solitaire. De nombreuses études publiées récemment en démontrent les bénéfices, dont un risque réduit de souffrir d'obésité, une meilleure alimentation et une amélioration de la qualité de vie. Top 5. Guides alimentaires les plus originaux. Le guide alimentaire des îles Fidji se présente sous la forme d'un ananas. La recommandation principale est au centre du fruit. Manger une grande variété d'aliments locaux. La Chine opte pour une pagode qui illustre en un coup d'œil les portions recommandées dans chaque groupe alimentaire. La Corée combine l'image d'une bicyclette qui symbolise l'importance de bouger et celle d'une assiette dévoilant les portions recommandées. Au Bénin, les recommandations alimentaires sont présentées dans une maison traditionnelle africaine. Ailleurs dans le guide, on suggère aussi de pratiquer une activité physique quotidienne d'au moins 30 minutes et de préserver la cuisine traditionnelle en l'enseignant à ses enfants. Dans un joli coquillage, le guide du Qatar rappelle l'importance de boire beaucoup d'eau et de favoriser la diversité lors des repas. Dans le texte d'accompagnement, on recommande aussi d'adopter de saines habitudes de vie et de prendre soin de sa famille. Je plaide non coupable. Les mises en garde, les portions recommandées, les aliments à privilégier et le plaisir dans tout ça. Si Bernard Lavallée, alias le nutritionniste urbain, n'avait qu'un conseil à donner, ce serait de manger les aliments que vous aimez. On a souvent tendance à catégoriser les aliments en deux camps, les bons et les mauvais pour la santé. Pourquoi ne pas voir les choses sous un angle différent? Les bons aliments qui nous procurent du plaisir et les mauvais où le plaisir n'est pas au rendez-vous? On a parfois l'impression que nos envies alimentaires pourraient entraîner des excès et des conséquences négatives sur notre santé, dit le nutritionniste. On pourrait craindre de ne pas pouvoir s'arrêter de manger du chocolat ou de dévorer des boîtes entières de biscuits. Mais en respectant nos envies, notre corps finit généralement par se satisfaire. Il n'éprouve plus le besoin d'en consommer davantage. Selon lui, les restrictions prolongées sont plus susceptibles de nous pousser à consommer de trop grandes quantités de nourriture. On entend beaucoup de conseils sur quoi manger et quoi ne pas manger. Malheureusement, de nos jours, l'alimentation devient une source de stress et d'anxiété. Pourtant, manger peut être un plaisir quotidien, assure Bernard Lavallée. Si les choix alimentaires sains sont importants, le plaisir de manger est tout aussi bénéfique pour la santé mentale et physique. Les aliments nous rattachent à notre culture, à nos traditions familiales, à nos goûts personnels. Les choix santé, oui, mais sans la culpabilité. Merci à Isabelle Germain, chercheuse scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Sophie Vincent, vice-présidente du centre Umami, et à Didier Brassard, nutritionniste diététiste et chercheur postdoctoral à l'Université McGill. À se mettre sous la dent. Manger l'exposition qui nourrit. L'exposition est présentée au musée Armand Frappier à Laval jusqu'en septembre 2024. La série télévisée « Manger » sur Ici Tout TV, Boucard Diouf raconte l'histoire fascinante d'aliments comme la courge, le miel et la tomate. Le documentaire « Des repas légendaires, l'histoire passe à table » sur Art TV. On revisite des moments marquants de l'histoire en explorant les repas qui étaient au menu. Le balado, on s'appelle et on déjeune sur Audio. Les nutritionnistes Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre parlent d'alimentation et de société. C'était Suivez le guide, un texte paru dans le magazine Corium en mars 2024. Fait vite fait sur le sucre. Un texte paru dans le magazine Les Débrouillards en mars 2024. Sucre. Le mot sucre vient du mot indien sarkara, signifiant sable ou gravier. Les plus grands producteurs de sucre sont le Brésil, l'Inde et la Chine. En 2022, le Québec a produit assez de sirop d'érable pour remplir 8 piscines olympiques. Du champ à l'assiette. Toutes les plantes fabriquent des sucres, mais seulement deux espèces en produisent suffisamment pour nos besoins. La canne à sucre et la betterave sucrière. Cultivée dans les pays chauds, la canne à sucre fournit les trois quarts du sucre consommé dans le monde. Dans les coulisses d'une sucrerie. Une sucrerie, c'est une friandise et c'est aussi une usine de production de sucre. Comment fait-on le sucre? En broyant des tiges de canne à sucre ou en faisant tremper des betteraves dans l'eau chaude. Un jus très sucré en sort. On retire l'eau pour en faire un sirop, puis on le fait cristalliser et sécher. Assemblage moléculaire. Il existe plusieurs types de sucre. Par exemple, le glucose du miel, le fructose des fruits, le saccharose de la canne à sucre ou l'amidon des pommes de terre. Ces sucres contiennent tous des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais arrangés différemment. Vive les confitures! Grâce au sucre, on peut conserver des fruits sous forme de confiture, de confit ou de sirop. Comment? Le sucre absorbe l'eau. Manquant d'eau, les bactéries et les moisissures ne se multiplient pas. Le carburant du vivant. Les sucres présents dans nos aliments sont appelés glucides. Ils constituent la principale source d'énergie de nos cellules. Toutefois, si on mange trop de glucides, Notre corps les stocke sous forme de graisse. Barbe sucrée. La barbe à papa contient seulement deux ingrédients, du sucre et du colorant alimentaire. Pour la confectionner, on utilise un appareil qui chauffe le sucre et le fait tourner très vite. Le sucre fond et s'échappe en filaments par de petits orifices. Au contact de l'air plus frais, les filaments se solidifient et on les récupère avec un bâton. Un cerveau gourmand. Lorsqu'on mange des aliments sucrés, notre cerveau sécrète de la dopamine, une hormone du plaisir. Ça nous pousse à recommencer. Selon les scientifiques, notre cerveau aime le sucre parce que les aliments sucrés sont une bonne source d'énergie. Ces aliments augmentaient les chances de survie de nos ancêtres. Aujourd'hui, notre alimentation est riche en sucre. On risque donc facilement d'en manger trop. Délicieuses sculptures. Il y a 500 ans, en Europe, on produisait peu de sucre et il coûtait cher. C'était un signe de richesse. On en faisait aussi des sculptures lors de grands banquets. Pour cela, on façonnait une pâte de sucre. Cette technique est toujours utilisée en pâtisserie. C'est le pastillage. Attention aux caries. Dans notre bouche, les bactéries consomment certains sucres de nos aliments et produisent des acides. Ces acides érodent l'émail des dents et y creusent des trous. Les bactéries s'y logent, et voilà une carie dentaire. Une ville appelée Sucre. En Bolivie, il y a deux capitales, La Paz et Sucre. Sucre a été nommé en l'honneur d'Antonio José de Sucre. Ce chef militaire a lutté pour libérer plusieurs régions sud-américaines de l'emprise espagnole au 19e siècle, mais rien à voir avec le sucre. C'était « Fait vite fait sur le sucre », un texte de Marianne Demers-Lemay, paru dans le magazine Les Débrouillards en mars 2024. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.